franceinter.fr.
La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre et bonjour à tous. C'est une petite chapelle dans un village des Landes, la rivière Saint-Savin. Une chapelle perchée sur une butte et dominant la paisible vallée de la Doure, inaugurée à la toute fin des années 60, elle fut érigée à l'initiative de l'abbé Michel de Vert, qui repose d'ailleurs aujourd'hui dans le cimetière situé juste à côté. Cette chapelle, c'est Notre-Dame du rugby. J'avoue que jusqu'à ce matin, je n'avais jamais eu vent de son existence. Et c'est Arnaud Bévy-Lacroix qui revient sur sa construction dans les colonnes de La Croix, une chapelle dédiée à tous les rugbymen de la terre, vivants ou morts, connus ou pas connus. L'abbé de Vert était un passionné de ballon ovale et les murs de la chapelle sont en partie recouverts par des maillots en fer en gratitude à la Vierge Marie. Du reste, les vitraux de la chapelle rendent aussi hommage aux sportifs. L'un s'appelle la Vierge aux joueurs blessés. Un deuxième a pour nom la Vierge à la mêlée. Et à l'occasion du match qui verra s'affronter ce soir les Bleus et les All Blacks en quart de finale de la Coupe du Monde, mon confrère nous explique que le rugby n'a pas toujours été en odeur de sainteté. Non, pendant des années, le monde catholique, effrayé notamment par la violence du jeu, lui a préféré le basket ou même le football. Mais désormais, la méfiance semble avoir disparu, ainsi qu'en témoigne le père Raphaël Comioto du diocèse de Grenoble, surnommé par certains l'aumônier du rugby. Il voit même de fortes convergences entre l'évangile et les valeurs de l'Ovalie. Ce sport, dit-il, promeut la solidarité, la complémentarité et la diversité. Il suppose également une dépendance à l'autre, car on ne peut rien faire seul. Et c'est une belle parabole de la vie. Alors je ne sais pas si Dieu sera ce soir du côté des rugbymen français ou bien des néo-zélandais, mais d'après la presse, ce matin, c'est à lui, à Dieu, qu'il faut s'adresser si l'on veut que le 15 tricolore ait une chance de s'imposer.
Et pour preuve, ce titre à la une du Parisien, priez pour eux.
Et oui, rien que ça, priez pour eux. Sous-entendu, les chances de victoire sont très faibles. L'équipe estime même qu'elles sont nulles. La France n'a aucune chance de surprendre une nouvelle fois les maîtres du monde All Black en phase finale d'un mondial. Elle n'a aucune chance. Et c'est là la seule raison d'espérer. Parce que donc, c'est dans l'adversité que les Bleus parfois se réveillent et parce que trop de confiance du côté des All Blacks pourrait les conduire à la faute. Comme ce 6 octobre 2007, quand les Bleus s'imposèrent sur la pelouse de Cardiff. Remember, titre ainsi la dépêche du midi, même pas peur, se rassure pour sa part Varmatin, tandis que la Charente Libre, nettement moins optimiste, évoque précisément des Français qui ont peur, peur du noir. Le dossier de l'équipe magazine va plutôt dans ce sens. L'hebdomadaire a recueilli les confidences de 8 anciens équipiers néo-zélandais et ils racontent ce que c'était pour eux que d'être un All Black, un esprit de sacrifice, un devoir d'exemplarité, une forme de religion en somme. Mais oui, nous y revenons. Dès lors, que peut-on faire face à ces garçons-là? Prier donc, comme nous y invite le Parisien, mais aussi espérer, à l'image de Jean-Marie Montali dans son édito. Espérer, oui, car le rugby n'est pas une science exacte et qu'en sport, la fatalité n'existe pas. Bref, tout est possible, écrit-il dans le journal. Jean-Pierre Rive, ex-capitaine du 15 de France, y croit même dur comme fer. Même si les Blacks nous impressionnent, je suis certain qu'on va gagner. Puis il ajoute qu'affronter les Blacks, c'est vraiment le rêve de tout joueur de rugby. C'est comme jouer les Brésiliens au football ou partir en week-end avec Marilyn Monroe. Le seul problème, c'est que Marilyn n'est plus de ce monde depuis longtemps. Mais bon, du coup, là où elle est, peut-être qu'elle aussi pourra faire quelque chose. Prions donc Marilyn Monroe. Et à quel saint se vouer au Parti Socialiste? La question se pose aussi ce matin dans la presse.
Oui, les journaux reviennent en effet sur le référendum organisé par le PS, référendum sur l'union de la gauche en vue des prochaines élections.
Une union des gauches impossible, annonce Libération Champagne, tandis que la Nouvelle République évoque un scrutin sans conviction, voire dans Aujourd'hui le Parisien, le reportage d'Éric Hackman dans une ville de l'Aisne, Vailly-sur-Aisne. Il s'est rendu dans le bureau de vote et à l'issue de cette première journée, l'urne en carton n'avait reçu que 13 bulletins. Le responsable du bureau a rapidement fait ses comptes. 3 jours à 13 votants, ça nous fait 39 au total. Avec ça, soupire-t-il, les partenaires de gauche vont vachement s'aligner derrière nous. Puis son téléphone sonne et soudain il exulte. C'était les gars de Château-Thierry, ils n'ont eu que 5 votants, on les a battus. Maigre consolation Le PS à la peine, en manque de militants. Lire aussi le reportage de Caroline Fontaine dans Match. En vue de ce référendum, elle a cherché à assister à une réunion de section. Et dit-elle, la route que l'on imaginait parsemée de roses s'est surtout révélée parsemée d'embûches, des sites internet invalides ou périmés avec des pages d'accueil qui appellent à la mobilisation des socialistes pour des élections de l'an dernier ou même des élections d'il y a 3 ans, des responsables qui ne rappellent pas. Et au final, la triste image d'un parti à l'encéphalogramme plat, pour reprendre les mots d'un influent sénateur. Et puis, un influent ministre fait également la une.
Oui, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, il a confirmé qu'il mènerait la liste socialiste en Bretagne tout en restant ministre.
Et c'est une décision qui suscite la perplexité dans les éditos ce matin. Perplexité, sévérité même chez certains. Petite décision, mais grande conséquence, écrite ainsi dans Midi Libre. Yann Marek, qui ne cache pas son incompréhension, alors que le Moyen-Orient est à feu et à sang, et alors que la France est engagée militairement sur le terrain, Jean-Yves Le Drian zappe, échange de disque dur, la cible n'est plus Raqqa mais Rennes. Oups. Et c'est évidemment au lendemain du second tour que le bas blessera, note de son côté David Revaud-Allen dans Le Monde. La Bretagne ou la Défense? Là réside encore la véritable incertitude, sachant que si Le Drian s'asseyait le 13 décembre au soir dans le fauteuil du président de la région, on voit mal comment l'exécutif pourrait, dans le climat actuel, justifier le maintien du ministre à son poste, fût-il le meilleur d'entre eux, estime Christophe Lucet dans Sud-Ouest quant à Dominique Garot. Il relève dans la Charente Libre que la seule logique de cette double casquette inédite serait de permettre à Le Drian de rester ministre en cas de défaite dans son bastion breton, mais ce serait alors, écrit-il, un mépris. Mépris des usages politiques qui veulent qu'un ministre battu dans les urnes démissionne. C'est toujours compliqué, la mêlée politique. Et puis, à propos de la défense, grand dossier dans le Figaro. Depuis les attentats de janvier, l'armée de terre suscite des vocations, hausse des candidatures spontanées, et l'armée ne devrait dès lors avoir aucun mal à remplir ses objectifs de recrutement pour 2015, envie de s'engager, de servir son pays. Envie de défendre son pays face aux nouvelles menaces. Les candidats sont jeunes la plupart du temps, mais ils sont aussi très nombreux à avoir plus de 45 ans. Et ça, c'est un phénomène nouveau, explique l'armée de terre. Du reste, depuis les attentats, les services de renseignement croulent également sous les candidatures.
Un classement nettement moins positif à lire sur le site Slate.
Classement des pays les plus talentueux et créatifs, Patricia. C'est le résultat d'une étude de chercheurs de Tonroton et la France se classe assez mal, dirons-nous. Question talent, elle arrive à une piteuse 26e place dans ce classement. Elle est dépassée notamment par l'Ukraine, elle est dépassée par la Lettonie, elle est dépassée également par Cuba. Et question créativité, la France est en 15e place, l'étude est basée sur 139 pays. La France, 15e pays le plus créatif du monde. La France arrive derrière l'Islande, elle arrive également derrière la Nouvelle-Zélande. Tout nous y ramène, le rugby, le sport. Et puis après le sport, la douche, Patricia, enfin la douche ou pas, lire dans la Tribune. Cette innovation dont je ne sais pas s'il faut se réjouir, la fin des douches, grâce à un spray à base de bactéries. Un ingénieur chimiste ne s'est pas lavé depuis 12 ans, Patricia. Il s'appelle David Whislock et il est propre. Non, il ne sent pas mauvais. Alors comment est-ce possible? Grâce à ce spray qu'il a inventé, un produit alternatif au savon qui se compose de plusieurs bactéries qualifiées de positives. En entrant au contact de la peau, elles peuvent décomposer l'ammoniac, le composé chimique responsable de nos odeurs. Elles créent aussi des molécules désinfectantes.
Ça plaît beaucoup à Pierre Veil, ça. Hein.
Alors, ce qui se lui plaira également, car l'un des composants dégagés par ces bactéries, le monoxyde d'azote, dilate les vaisseaux sanguins, ce qui est utile pour réduire la pression artérielle et même contrôler ses érections. Alors, je ne sais pas s'il faut se réjouir ou pas de la mise sur le marché de ce spray. Moi, je préconise plutôt la douche.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.